En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On va commencer par un petit temps de méditation. Donc toujours, on prend un moment pour mettre le corps en méditation, c'est-à-dire le corps le plus détendu possible, avec la colonne vertébrale bien droite. Idéalement, on reste les yeux ouverts. Le regard est à l'oblique, posé devant soi. Ou alors, si on sent que l'esprit est trop... sous l'emprise de la torpeur, trop endormi, on peut lever le regard devant soi pour éclaircir l'esprit. Si on a besoin, on prend un support de méditation comme la respiration pour rester en contact avec l'instant présent. Ça peut nous servir de point de repère, de garder un œil sur l'inspire et l'expire, tout en étant conscient de tout le reste. Ou bien si on est familiarisé avec la méditation de Chiné, on peut s'entraîner à méditer sans support, simplement être présent, sans rien faire de particulier. Continuellement attentif à chaque instant, sans se laisser distraire par tout ce qui peut se produire dans l'esprit. Les commentaires, les sensations, les perceptions, le passé, le futur. On laisse tomber toute préoccupation. On ne s'accroche à rien. On laisse passer les phénomènes, les pensées, les sons, les sensations. Si on se sent suffisamment stable, on peut pratiquer la Qtong en tournant notre esprit vers l'intérieur, en regardant cette conscience, la nature de ce qui est conscient, des pensées, ce qui est conscient des sensations, des perceptions. Est-ce que cette conscience est à l'intérieur du corps? Est-ce qu'elle est à l'extérieur du corps? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'elle a une taille? Une forme? Est-ce que cette conscience est gênée par les sons? Est-ce qu'elle est gênée par les formes? Par le mouvement ou par l'absence de mouvement. Alors ce soir, on va parler de la générosité, qui est la première des paramitas, et puis de l'éthique. La dernière fois, j'avais fait une introduction sur les paramitas, mais on n'avait pas commencé. Alors il y a un ordre dans lequel sont présentés les paramitas, il y a un ordre logique. Et bien sûr, on les pratique toutes conjointement, ces six vertus, mais on les présente dans un ordre précis parce qu'il y a une logique derrière. Chacune des paramitas est le support de la suivante. Et à ce propos, donc, Rinpoche dit dans le texte, les six paramitas sont présentés dans l'ordre logique de notre progression sur la voie des bodhisattvas. Nous débutons par la pratique du don, qui nous permet de devenir moins égoïste et moins envieux. Dès qu'on est moins possessif, tant envers les choses qu'envers les gens, il est plus facile d'adopter un code de conduite morale, puisque la base d'une bonne conduite est le non-attachement. Donc la conduite, c'est la deuxième paramita. De même, une conduite éthique est la base, le fondement de la patience, troisième paramita. En effet, la patience et la tolérance se développent à partir de l'autodiscipline. Une fois qu'on est patient, il est aisé de développer la persévérance, puisqu'elle n'est autre que la capacité de s'appliquer intelligemment, de soutenir son intérêt dans tout ce qu'on fait, y compris la pratique spirituelle. La méditation ne présente alors plus de difficultés, la persévérance nous ayant appris la concentration. La méditation, quant à elle, rend notre esprit calme et stable et le protège de la distraction et de la confusion. C'est sur ce terrain qu'apparaît progressivement la sagesse. En effet, un esprit parfaitement calme et clair voit sans difficulté la vraie nature des phénomènes. Ouais, c'est assez simple à comprendre. Pourquoi on va développer la première... comme première paramétrie, on va développer la générosité pour travailler sur l'attachement. Et donc, moins on est avide, moins on a d'attachement, plus ça va être possible de garder une certaine conduite éthique, que les choses aillent bien, que les choses aillent pas bien, on garde notre ligne de conduite, ce qui va être la base de la patience. La patience, c'est pareil, c'est six situations favorables, six situations défavorables. Puisqu'on garde notre ligne de conduite, on va pouvoir pratiquer dans ces deux conditions-là. Que les choses aillent bien, que les choses aillent pas bien. Et puis, la persévérance, bah, c'est le fait de ne pas s'éparpiller, de garder notre objectif, de garder notre enthousiasme pour la pratique spirituelle, pour les activités bénéfiques. Et comme on a moins l'habitude de se disperser, ça va être un terrain favorable pour la méditation, justement, rester concentré en un point, sans se disperser, et plus on va pratiquer la méditation, plus l'esprit va devenir stable, et c'est ce qui va nous permettre de regarder justement les choses telles qu'elles sont, sans se laisser emporter par les phénomènes, et c'est ça qui va développer la sixième paramita, la sagesse. Alors, la générosité. L'essence de la générosité est le non-attachement. Je vais beaucoup m'appuyer sur ce livre, qui est un commentaire d'un ouvrage de référence qui s'appelle Le précieux ornement de la libération. Je vous en ai parlé la dernière fois ? Non ? Alors, Le précieux ornement de la libération, c'est vraiment un classique dans la littérature bouddhiste et particulièrement dans la lignée Kagyupa, celle auquel se rattache Bodhicharya France. Et je ne l'ai pas amené parce que c'est vrai que le précieux ornement de la libération, c'est une lecture, donc c'est un texte qui est ancien, qui est présenté de manière très rigoureuse. Et ça peut, comment dire, c'est... Je vous encourage à le lire, mais c'est vrai que pour en faire un commentaire, j'ai préféré m'appuyer carrément sur le commentaire plutôt que de vous lire, parce que si vous voulez, c'est présenté comme ça. Voilà, il y a les six paramitas, la générosité, définition de la générosité, les bénéfices à pratiquer la générosité, les inconvénients à ne pas pratiquer la générosité, et puis c'est développé point par point. Alors il y a 10 inconvénients, 10 bénéfices. C'est un peu voilà. Mais n'empêche que je vous encourage à le lire parce que Il est dit par Gampopa lui-même, qui est l'auteur de Précieux ornements de la libération, c'est que qui lit cet ouvrage me rencontre en personne. C'est ça qu'a dit Gampopa. Et puis vous allez avoir beaucoup d'ouvrages comme ça dans la littérature bouddhiste où, quelque part, il ne faut pas se complexer en se disant bon, ça, c'est pas pour moi, c'est pas de mon niveau, etc. Parce que parfois, rien que le fait d'écouter un enseignement ou de lire un enseignement, eh ben, ça a une portée au-delà de notre compréhension. C'est-à-dire que peut-être nous, on se dit à ce moment-là, je comprends pas, mais on dit qu'il y a des textes comme ça qui ont un pouvoir de, pourrait dire, de bénédiction, quoi, j'ose le dire, une sorte de grâce qui vient, même si on n'en prend pas conscience. Et ça vous est peut-être arrivé comme ça. On lit le bouquin, on comprend rien, mais finalement, on a quand même envie d'y revenir. On sent qu'il y a quelque chose, un je ne sais quoi qui nous interpelle. Voilà, Précieux ornements à la libération, il fait partie de ces ouvrages-là. Voilà, faut pas se complexer parce que bon, il y a des passages qui nous paraissent confus, troubles. Et ben, ce qu'on peut prendre, on prend. Ce qu'on prend pas, c'est pas grave. Il y a quand même quelque chose qui passe, d'une certaine manière. Et donc là, je me suis appuyé sur un commentaire de ce texte qui est très court, qui s'appelle « Et si vous m'expliquez le bouddhisme ?» En fait, on le conseille aux gens qui débutent, mais en fait, cet ouvrage il est très profond. C'est pas du tout de la, c'est, je dirais, c'est pas du tout de la vulgarisation bouddhiste en fait. C'est vraiment un texte très profond et très clair. Et donc il y a tout un chapitre sur les paramitas. Et on va commencer par les générosités. Alors, l'essence de la générosité est le non-attachement. Donner nous enrichit, garder nous appauvrit, tel est le processus karmique de la pratique de la générosité. Peu de gens suivent actuellement un tel raisonnement. Pourtant, donner est la véritable source de la prospérité et de la richesse, alors que le résultat de l'avarice est la pauvreté. Ce n'est peut-être pas toujours évident, mais il est sûr que l'on est plus heureux quand on a peu d'attachement, qu'on n'est pas avide envers les gens et les choses. De toutes les possessions, la plus haute et la plus noble est le contentement. La satisfaction nous donne toutes les richesses du monde, car nous ne souhaitons rien de plus que ce que nous avons. Une personne contente est une personne riche. Voilà, donc je vous apprends rien de nouveau. Bien sûr, quand on dit une personne contente est une personne riche, on l'entend pas au sens matériel du terme. On parle vraiment de un état d'esprit de richesse, parce qu'on pourrait très bien dire que l'avidité aussi, ça rend riche. D'une certaine manière, l'avidité a le pouvoir de nous rendre riches matériellement. Voilà, parfois, on interroge des gens qui ont une grande richesse, et certains vont répondre sans problème que la clé de leur succès, c'est justement de ne pas avoir donné un sou sans attendre un retour. Et c'est vrai d'une certaine manière. Par contre, l'avidité n'a pas le pouvoir de nous sentir riches, d'être riches spirituellement, c'est-à-dire un état d'esprit de richesse. Et donc il va s'agir donc de, quand on parle de contentement, il va s'agir de se sentir riche. Une personne contente est une personne riche, qu'elle ait ou pas des possessions. Et pour pratiquer la générosité, on va d'abord devoir pratiquer sur l'avidité. Et parce que, avant d'envisager de pouvoir donner, le propre de l'avidité, c'est que justement, on se sent tellement préoccupé par ses propres besoins qu'on n'est pas en mesure d'envisager les besoins de l'autre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand on nous dit de pratiquer le contentement dans le dharma, c'est de justement prendre le contre-pied de l'avidité. L'avidité, c'est le fait de se porter, de se focaliser sur ce qu'on n'a pas. C'est ça l'avidité. On est sans arrêt en manque de quelque chose. Même si on a tout pour être heureux, même si on a tout à une grande aisance, l'avidité fait qu'on se focalise sur ce qu'on n'a pas. Et c'est une tendance, c'est une habitude très forte qui fait que même s'il y a 100 choses qui vont bien, il suffit d'un truc qui va pas pour que on se focalise là-dessus. Quand je dis avidité, c'est aussi dans le sens avidité, le mécontentement. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et le contentement, c'est exactement l'inverse. Le contentement, c'est un entraînement qui consiste à prendre conscience de ce qu'on a plutôt que focaliser sur ce qu'on n'a pas. Alors ça ne veut pas dire que il y a des voilà, qu'on fait du qu'on essaye de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est voilà, on est conscient qu'il y a des trucs qu'on n'a pas, mais en même temps il y a plein de trucs qu'on a. Et c'est ça l'idée, c'est de porter notre attention sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Alors, souvent, j'ai entendu Lama Tsultrim qui disait qu'il fallait faire des listes. Il n'est pas le seul à dire ça. J'ai vu ça aussi dans des vidéos de développement personnel. Pour pratiquer le contentement, bah, faire des listes de tout ce qu'on a. Ça peut paraître un peu, comment dire, un peu naïf, un peu scolaire, enfin, tout ce que vous voulez, mais n'empêche que... Moi, j'ai eu du mal avec cette méthode jusqu'au jour où je m'y suis mis, voilà, le plus honnêtement possible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on ne peut plus s'arrêter. Si on commence même de manière artificielle, voir dans notre vie tout ce qu'on a, tout ce dont on peut se réjouir, ben, au début, on prend les trucs les plus évidents, et puis après, ça nous demande de creuser, et vous allez voir qu'on ne peut plus s'arrêter. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne mentionne pas, qui ne paraissent pas évidentes, parce que tout simplement, eh ben, ça me paraît très banal. Tout simplement, c'est un truc, ben voilà, que, ben oui, ce soir, on va se coucher dans un lit douillet, dans une maison chauffée, on se pose pas les questions de qu'est-ce qu'on va manger demain, le frigo, il est plein. À la limite, c'est, voilà, pour la plupart d'entre nous, c'est un problème qui est déjà réglé d'avance. C'est pas notre préoccupation qui va nous occuper toute notre journée. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, ben voilà, il y a des gens, sur cette planète en ce moment même, c'est leur seule préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants, et il n'y a pas d'autre place pour autre chose. D'ailleurs, ça prend tout leur temps, toute leur énergie, et il n'y a vraiment pas de place pour s'occuper d'autre chose. Et donc nous, quelque part, parfois on peut se surprendre à trouver ça très banal, très acquis. Mais du point de vue du dharma, c'est une vue erronée. Voir les choses comme ce genre de choses comme banales et acquises, eh ben c'est une erreur. C'est un fonctionnement tordu de notre esprit. Précisément parce que justement ces choses-là ne sont pas acquises. Si on comprend bien la permanence, ben on sait que tout ça peut passer, voilà, ça peut disparaître du jour au lendemain. Et donc, c'est maintenant qu'il faut s'en réjouir. Et il y a plein de choses comme ça. Le fait de savoir conduire, le fait d'avoir une voiture, le fait de pouvoir bénéficier de tous les transports qu'on a aujourd'hui, c'est des choses incroyables. Le fait de pouvoir appeler à l'autre bout de la planète, d'avoir le téléphone, d'avoir un ordinateur, de pouvoir être informé, de savoir communiquer, d'avoir des amis, tout ça, c'est des choses qui font partie de notre quotidien, et donc du coup, ça nous paraît normal, mais pas tant que ça, en fait. C'est quelque chose, surtout quand on essaye de réfléchir à d'où on le tient, ça, comment on l'a obtenu, de voir que finalement, tout ça, on l'a pas obtenu par nous-mêmes. C'est, quelque part, pour beaucoup de choses, on le tient de notre éducation, de nos parents, de nos amis, de nos proches, de toutes les personnes qui ont pris soin de nous, de la société, etc. Alors, il y a plein de choses dont on peut se réjouir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que plus on va faire ça, plus ça va devenir naturel. Au début, ça peut paraître un peu artificiel. Mais au bout d'un moment, ça devient de plus en plus un état d'esprit de richesse, le contentement. Et en plus, j'aime bien dire aussi, c'est intéressant de prendre conscience aussi de tous les problèmes qu'on n'a pas. Le fait de se lever le matin, par exemple, quand on se lève le matin, et puis qu'on a mal nulle part, qu'on a pas mal au ventre, qu'on a pas mal à la tête, tout ça, c'est pas si, banale que ça. On s'en rend compte que le jour où justement bah ça on a un problème, on se lève avec bah tout d'un coup, du jour au lendemain, des insomnies chroniques, des problèmes articulaires, etc. Et là on se dit ah bah qu'est-ce que c'était bien avant quand j'avais pas ces problèmes, mais c'est trop tard à ce moment-là. C'est intéressant de prendre conscience aussi de tous les problèmes qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas aujourd'hui, et que c'est le moment de s'en réjouir. Bon, j'utilise toujours les mêmes exemples, hein, vous avez vu, hein, je me répète à fond, mais voilà. Alors, je continue sur la générosité. Une personne contente est une personne riche. C'est une opinion peu partagée de nos jours, et j'entends souvent dire que les gens contents n'ont plus d'ambition et que sans ambition, on n'est plus rien. Pourtant, l'ambition m'apparaît plutôt comme une source de tension et les gens avides me semblent rencontrer beaucoup de problèmes. Bien sûr, la société moderne est en grande partie construite sur l'avidité et le désir. Les gens en veulent toujours plus. Leur désir est comme un feu qu'ils doivent perpétuellement entretenir. Tout ce qu'ils y jettent se consume immédiatement et le feu continue. La seule façon de l'arrêter est de trouver le contentement. Le désir, l'avidité sont comme un puits sans fond. On ne peut jamais le remplir. Seul le contentement nous apportera la paix. Tant qu'on n'est pas satisfait, on court toujours derrière quelque chose, incapable de rester tranquille. Le contentement est la condition d'un esprit en paix. Cela ne signifie nullement qu'il ne faille pas travailler ou que nous devions nous contenter de n'importe quoi. Le problème, c'est notre attitude envers les choses. Si nous restons avides, tenaillés par une soif inextinguible, nous ne trouverons jamais le contentement. Nous ne profiterons pas de ce que nous avons et nous en voudrons toujours plus. Je trouve ça bien qu'il souligne que le contentement est la condition d'un esprit en paix. Cela ne signifie nullement qu'il ne faille pas travailler ou que nous devions nous contenter de n'importe quoi. Parce que parfois, dans la notion de contentement, on pourrait le prendre comme sorte d'attitude de résignation. Oui, bon bah c'est comme ça, je me contente de ça parce que bon bah voilà. Avec un espèce d'état d'esprit passif comme ça. Alors que là. Le contentement est présenté comme quelque chose, comme un principe actif. Comme je vous disais, ça demande de porter notre attention sur ce qu'on a. Et tant que ça, c'est pas acquis, tant qu'on n'a pas trouvé, ben ça nous demande un effort. Il faut qu'on le cultive, ce contentement. Il faut qu'à chaque fois qu'on rentre dans la lamentation, dans l'auto-apitoiement, et ben on ait ce réflexe-là de dire oui, ok, ça va pas, mais il y a plein de choses qui vont bien. Et en ça doit être actif. Si nous sommes particulièrement avides et possessifs, nous risquons en plus de renaître dans le royaume des esprits avides. Un esprit avide est un être qui, ayant déjà beaucoup de choses, pense encore que tout le reste doit lui appartenir. Dans la tradition tibétaine, celui qui naît dans le royaume des esprits avides devient une boule de feu qui ne parvient pas à toucher les choses qu'il essaie d'apprécier et ne peut donc jamais goûter quoi que ce soit. Un esprit avide a parfois un ventre gros comme un tonneau, avec un cou étroit et une bouche minuscule, comme un trou d'aiguille. Rien de ce qu'il essaie de manger ne parvient à passer par sa bouche, et quand la nourriture y entre malgré tout, son cou est trop étroit pour qu'elle arrive dans l'estomac. Selon le Bouddha, si nous sommes riches dans cette vie, c'est que nous avons été généreux dans nos vies antérieures. Si nous voulons devenir riches dans le futur, nous devons dès lors apprendre à donner. Alors c'est vrai que quand on lit des choses comme ça, nous avec notre passé judéo-chrétien, certaines personnes auraient tendance à le prendre comme en gros si t'es gentil tu vas au paradis, si t'es méchant tu vas en enfer. En gros si t'es généreux c'est bien, si t'es pas généreux c'est pas bien, tu renaîtras dans l'enfer des esprits avides, etc. Et donc du coup je vais nuancer un peu ce passage en disant que c'est pas comme ça que ça marche. Quand il est dit, selon Bouddha, si nous sommes riches dans cette vie, c'est que nous avons été généreux dans nos vies antérieures. Si nous voulons devenir dans le futur, nous devons dès lors apprendre à donner. Il s'agit pas d'une sorte de rétribution, comme une sorte de châtiment, où il y aurait quelqu'un, le Bouddha ou un dieu, voilà, toi t'as été généreux, ok, oh, paradis. Toi t'as pas trouvé, c'est pas comme ça que ça marche. On parle de karma. On parle de karma, c'est-à-dire d'une loi de cause à effet, de l'ordre de l'esprit. Parce qu'il y a d'autres lois de causalité. Il y a des lois de causalité de toutes sortes. Par exemple, de causalité météorologique, causalité botanique. Je plante un grain de blé, bah, je vais obtenir un épi de blé, je ne vais pas obtenir un pommier. Dans le karma, on va surtout parler d'une causalité psychologique, la logique de l'esprit. L'avidité, c'est-à-dire cette tendance, cette habitude très ancrée à se porter sur ce qu'on n'a pas, fait que quoi qu'on ait, eh bien, on est toujours en manque de quelque chose. On n'est toujours pas satisfait, on n'est jamais comblé. Et ça se traduit donc par ces images qu'on va utiliser, par exemple, sur les peintures tibétaines. Ils représentent la vide avec, par exemple, un énorme ventre, d'ailleurs, voilà, qui représente la faim, et puis une tête au bout d'un cou qui est tout petit, c'est-à-dire, ben voilà, pour pouvoir calmer cette faim, eh ben, ça doit passer par un cou étroit, et puis on n'arrive même pas à avaler le moindre aliment. Ou alors, l'esprit avide va être dépeint, c'est-à-dire sans arrêt en train de chercher quelque chose pour se sustenter, sa faim, sa soif, mais en fait, il parcourt des déserts où il n'y a absolument rien, ou alors il va parcourir des étendues immenses, vraiment, oui, il erre, il erre, il erre, et puis tout ce qu'il trouve, eh ben, c'est du pus, c'est des excréments, c'est voilà, c'est quelque chose qui ne le satisfait jamais. Ou alors, on va le représenter sous la forme d'une sorte de boule en fusion. C'est-à-dire, il a faim, mais tout ce qu'il touche, eh ben, en fait, ça prend feu, ça peut jamais le combler parce que ça, dès qu'il s'en approche, eh ben, c'est pas ce qu'il voulait parce que ça lui échappe. Voilà. Et c'est ça, l'enfer de l'esprit avide. Et c'est comme ça qu'on renaît. C'est-à-dire, nous allons devenir ce que nous faisons maintenant. On dit que ce que nous sommes, c'est le fruit de ce que nous avons fait. Ce que nous serons, c'est le fruit de ce que nous faisons maintenant. C'est ça le processus de renaissance. Et on parle de renaissance pas seulement en termes de vie successive, on parle aussi de renaissance en termes d'instants successifs. Plus on a une habitude, plus l'instant suivant va être conditionné par notre état d'esprit présent. Et c'est ça, c'est si on s'entraîne à être avide, eh bien, on s'entraîne à être pauvre, on va devenir pauvre, pauvre dans tous les sens du terme. Et alors que plus on donne, plus on se sent riche de quelque chose, plus on se débarrasse de cet état d'esprit de possessivité, plus on devient riche. Et c'est là, voilà, c'est ça la loi karmique. Et puis les maîtres vont beaucoup insister là-dessus. Si nous donnons plus, nous recevrons plus. Peut-être dans cette vie, peut-être dans une autre. Si nous sommes riches, mais nous n'avons pas le courage d'être heureux ou de donner aux autres, la quantité de nos biens n'a aucune importance. C'est comme si nous n'avions rien. La richesse nous apporte un certain pouvoir, une certaine importance, mais aussi de nombreux problèmes, du stress, des préoccupations, précisément à cause de cette richesse. Je ne dis pas qu'il faille manquer du nécessaire pour vivre. Nous avons évidemment besoin d'argent. Il ne faut pas sous-estimer son importance, mais pensons qu'il y a aussi un retour, un rendement lié à ce que l'on donne. Selon la loi du karma, plus on donne, plus on reçoit. Pourtant, paradoxalement, si nous donnons en espérant recevoir, ce processus ne fonctionne pas. Alors ça, si, c'est très très important. Dans le karma, il n'y a rien qui part. Tout est compté, tout est juste. Il n'y a rien qui se perd dans le karma. C'est si je donne, mais que derrière mon don, c'est pas un don pur, c'est-à-dire, si derrière mon don, il y a une transaction. D'ailleurs, j'espère récupérer quand même quelque chose, aussi subtil que ce soit, ça peut être l'attente d'un retour, l'attente d'un remerciement, l'attente de reconnaissance. Voilà, il peut y avoir plein d'intentions derrière un geste de je restais. Bah, tout va se traduire, c'est-à-dire, on aura le résultat de ça. On aura le fruit de la générosité, on aura aussi le fruit de l'intention de telle ou telle transaction. Si j'essaye de récupérer un truc, je vais avoir ce fruit-là. Et c'est pour ça qu'il dit,
Pourtant, paradoxalement, si nous donnons en espérant recevoir, ce processus ne fonctionne pas. Ben oui, parce que si on pourrait dire, ben voilà, effectivement, selon la loi du karma, si je donne, je vais recevoir un truc, mais si je donne avec l'intention de recevoir un truc, ça marche plus, c'est plus un don, c'est une transaction. Et c'est pas un châtiment, là encore. C'est pas, oh là là, lui il est égoïste, c'est pas bien d'être égoïste, et ben tant pis, t'iras dans l'enfer des esprits. C'est pas du tout comme ça. C'est juste que c'est pas efficace. C'est vraiment une histoire d'efficacité, le karma. Il y a un karma qui est efficace à nous rendre heureux, un karma d'éveil, un karma voilà, qui a la vertu de nous éveiller, et puis il y a un autre karma qui n'est pas efficace. Même si dans ce raisonnement, ben voilà, je vais donner pour être plus heureux, il peut y avoir une intelligence derrière. Mais c'est pas efficace à nous rendre heureux. L'avidité a l'efficacité de nous rendre riches matériellement, mais elle n'a pas l'efficacité de nous rendre satisfaits. Elle n'a pas le pouvoir de nous éveiller, elle n'a pas le pouvoir de nous rendre riches réellement. Et c'est là qu'on va rejoindre justement la paramita de la générosité. On va reparler, mais derrière la paramita de la générosité, il y a ça. Il y a la générosité, et puis le top de la générosité, c'est que la générosité ne s'embarrasse plus de la notion d'un donateur. C'est-à-dire, on se prend pour quelqu'un qui possède quelque chose, et donc qui va le donner à quelqu'un, et puis pareil, on a beaucoup de saisies par rapport à qui on le donne, est-ce qu'il le mérite, est-ce qu'il le mérite pas, ceci, cela, et puis aussi vachement de saisies par rapport à ce qui est donné. Ben ça a telle ou telle valeur, ça a vachement de valeur, ça a peu de valeur, etc. En fait, pour pratiquer le top de la générosité, c'est-à-dire la paramita de la générosité, celle qui... où il n'y a plus de limite dans les bénéfices, il faut se libérer de toute la saisie liée à la notion de possesseur, à la notion de donateur. Et ça, on va s'en libérer naturellement, en fait, en travaillant sur l'idée qu'au fond, on ne possède rien. Dans le fond, on est dans ce monde tout nu, et puis on repart tout nu, c'est-à-dire toutes les possessions qu'on a pu accumuler dans ce monde, de toute façon, il faudra les laisser derrière nous au moment de mourir. Et puis on va travailler avec cette notion-là, que tout est impermanent. Tout ce qu'on avait, un jour on a rien, le lendemain on a tout, et puis le lendemain on a encore rien. Voilà, les choses nous sont données à un moment donné, à un moment donné, on possède quelque chose, et puis le lendemain, pour une raison ou pour une autre, on ne le possède plus. Voilà, les phénomènes vont et viennent, et donc la notion de possession devient de moins en moins pertinente. On va travailler avec cette idée-là, jusqu'à ce que ça devienne carrément un concept. Le fait de posséder, c'est juste une idée, mais ça ne reflète pas la véritable nature des choses. Au fond, on ne peut rien posséder. Il n'y a rien qu'on puisse profondément dire « ça, c'est à moi ». Ça, je peux le garder. Ça, c'est fondamentalement... Même notre corps, il va falloir le laisser de côté au moment de mourir. Il ne nous appartient pas fondamentalement. C'est notre support pour cette vie-là. Mais au fond, il ne nous appartient pas fondamentalement. Et tout est comme ça. Et plus on va réaliser ça, bah plus en fait l'idée de donner en fait, n'aura rien à voir avec le fait de se déposséder de quelque chose. On va en même temps se libérer de la notion de donateur. Je suis quelqu'un qui possède quelque chose et je te le donne à toi, ce côté. Et c'est pour ça que la générosité, elle est traduite par... en fait, non, la générosité n'a pas tant à voir avec l'acte de générosité. Il s'agit d'un état d'esprit. Un état d'esprit qui est habité par le non-attachement. C'est ça qui traduit la générosité. Je vais vous lire un autre texte que j'ai trouvé dans un ouvrage de Shogyam Trungpa. Donc c'est aussi un grand maître de la lignée Kagyu. Shogyam Trungpa, il est important parce que c'est un des premiers maîtres tibétains qui ont fait beaucoup pour que le dharma arrive en Occident, notamment aux États-Unis. Voilà. Et bon, alors Shogyam Trungpa, il est particulier. En fait, ce qui est très fort quand on lit des récits de sa vie, c'est que il fait partie donc de cette génération qui a été exilée, voilà, qui a fui le Tibet pour se réfugier en Inde, et puis ensuite il s'est retrouvé en Angleterre d'abord, et puis ensuite aux États-Unis. Et quand on lit les récits de sa vie, il y a quelque chose qui est très puissant pendant toute son existence, c'est détermination à transmettre. À un moment donné, il savait même pas ce qu'étaient devenus ses maîtres, il savait même pas ce qu'étaient devenus ses proches, ses maîtres, etc. Et donc, c'était très important pour lui. Il se disait, mais si moi je transmets pas cette sagesse que j'ai reçue de mes maîtres, qui va le faire? Il se sentait vraiment tout seul. Et donc, pour lui, il avait un fardeau. Enfin, un fardeau, dans le bon sens du terme. Il avait une tâche, il avait une mission. Et c'est très présent dans sa vie. Et puis, voilà, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a beaucoup d'audace dans sa façon de transmettre. C'est-à-dire, ben voilà, si ça passe pas comme ça, ben je vais essayer comme ça. Si ça passe pas comme ça, ben je vais essayer comme ça. Et puis donc, du coup, il a pu dépasser toutes les barrières culturelles, les barrières de la langue. Il s'est beaucoup imprégné de la culture anglo-saxonne. Et je trouve que c'est les traductions de ses bouquins, les traductions en fait de ses rencontres avec ses disciples, les auditeurs, etc. C'est très bien fait. Mais voilà, il a une façon de parler qui est très particulière, et je sais que ça plaît pas à tout le monde. Alors je vais quand même vous lire le passage, mais bon, bah après, j'ai envie de dire, si ça vous parle pas, bah normal, parce que parfois ça me parle, parfois ça ne parle pas. Le dharma est le dépassionnement, la non-passion, ce qui revient à dire qu'il n'entraîne ni ne contient aucune sorte de désir, aucune forme du désir d'un accomplissement quelconque, et que donc l'action généreuse, l'acte, le geste de générosité, se fait gratuitement, sans intention ni arrière-pensée, sans référence aucune à une rétribution quelconque, à quelque récompense particulière. La générosité n'a par conséquent pas d'autre sens que la non-possession. Être généreux veut dire ne pas posséder. C'est pas mal ça. Être généreux veut dire ne pas posséder. Qu'un homme soit riche, il pourra se dire, à présent oui, j'ai le moyen de pratiquer la générosité puisque j'ai des moyens pour le faire. Mais pour ce qui est du bodhisattva, c'est un problème qui ne se pose pas du tout. La question n'étant pas de posséder quelque chose. La générosité est simplement une disposition intérieure, un état d'esprit où l'on ne désire pas posséder et où l'on est amené à distribuer à autrui. De plus, la générosité n'est pas seulement en rapport avec la pratique de la méditation qui permet de connaître, en ne gardant rien par-devers soi, une sorte d'effacement du moi, un état de désintéressement. Elle est donc également quelque chose de positif. Dans les Écritures, Bouddha parle de la pratique de la générosité en étendant le bras et en le ramenant au corps. Alors je crois qu'il s'agit de ce mudra-là. Et parfois le mudra de la générosité est dépeint comme ça. Quand on voit les bodhisattvas qui font le mudra du don, la main est sur le genou, légèrement penchée vers le bas, et on peut remarquer qu'il n'y a rien dans la main. Il n'y a rien qui symbolise par exemple la générosité. Ça peut, voilà, on aurait pu mettre un joyau, on aurait pu avoir quelque chose de très précieux, mais ce qui est aussi important, c'était une lecture qu'un lama nous avait proposée, c'est de voir que dans le mudra du don, eh ben, on se met à la disposition, à l'écoute d'un besoin, mais justement, on ne va pas donner ce qui ne nous a pas été demandé. Même si c'est quelque chose qui a de la valeur pour nous ou à nos yeux, quelque chose de précieux, dans la générosité, il s'agit de répondre à une demande. Il ne s'agit pas d'aller donner quelque chose à quelqu'un qui ne nous a rien demandé. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a rien montré. C'est un état de disposition, de disponibilité, self-service, voilà, de quoi tu as besoin. Mais on va pas voilà, donner quelque chose qui nous a pas été demandé. Que ce soit dans tous les sens du terme, parce qu'on va parler de générosité en termes matériels, en termes de temps, en termes d'aide psychologique, en termes de dharma, transmission, voilà, on ne donne pas ce qui nous a pas été demandé. Un récit qui date de la vie de Bouddha raconte l'histoire d'une mendiante qui était pauvre entre tous les plus pauvres mendiants de l'Inde. Car si elle était pauvre d'état, elle l'était aussi de nature. Elle se sentait d'autant plus pauvre que ses désirs étaient insatiables. Un jour, elle apprit que Bouddha était invité chez Anathapindika, dans le Jetavana, le grand parc qu'il lui offrait comme séjour. Anathapindika était un riche marchand et un grand donateur. Aussi décida-t-elle de suivre Bouddha parce qu'elle savait qu'il lui donnerait de quoi manger, quels que puissent être les restes. Après avoir assisté à la cérémonie d'offrande au Sangha et au Bouddha, elle s'assit et attendit que Bouddha la vit. Il se tourna vers elle, s'approcha et lui demanda ce qu'elle désirait. Il le savait naturellement, mais c'était à elle de le reconnaître et de le dire. Et elle dit « Je voudrais manger, je voudrais que vous me donniez ce qui restera. » Bouddha dit « Dans ce cas, il faut d'abord dire non. Quand je vous offre, vous avez à refuser. » Il lui tendit de la nourriture et elle s'aperçut que c'était très difficile de dire non. Elle comprit que toute sa vie, elle n'avait jamais dit non. N'importe quand, n'importe où, si quelqu'un avait quelque chose ou si quelqu'un lui offrait quelque chose, toujours et partout, elle avait répondu « Oui, je le veux. » Elle trouva donc vraiment très difficile de dire non, n'étant pas du tout accoutumée à ce mot. Elle finit tout de même, après de grandes difficultés, par dire non, et Bouddha lui donna la nourriture, et ce fit ce qui l'amena à comprendre que la véritable faim au-dedans d'elle-même était le désir et le besoin d'avoir, de posséder, de prendre, d'accaparer. Voilà un exemple qui nous montre comment on peut pratiquer la générosité. Et c'est une générosité qu'on peut à ce point de vue pratiquer envers soi-même, puisque ce qui importe ici est de se libérer de cette possessivité, de ce besoin perpétuel. Ensuite, bien sûr, le premier pas à faire est d'abandonner ses biens propres. Mais ce n'est pas une chose obligatoirement associée à l'austérité. Cela ne signifie pas que vous n'ayez pas le droit de posséder quelque chose, ou qu'il vous faille vous défaire immédiatement de ce que vous avez. À supposer que vous ayez une grande fortune et des biens nombreux, soit. À supposer que vous en jouissiez et qu'il vous plaise de les avoir, soit encore. Et que probablement vous y attachiez un intérêt personnel, soit. On ne vous demande pas de ne pas estimer la valeur ou de mépriser vos possessions. Toute la question est que ce soit également facile de vous en défaire. Voici l'histoire qu'on raconte au Tibet à propos de deux frères dont l'un possédait 99 yaks alors que l'autre n'en avait qu'un seul. Avec son yak, le frère pauvre se trouvait satisfait. Il était heureux et se sentait riche. Il avait un yak et c'était tout ce qu'il lui fallait. Il n'en demandait pas plus. Mais il ne vivait pas non plus dans une crainte particulière de le perdre. Le fait est qu'il avait réellement plus de joie à posséder son yak qu'il n'avait de peur à l'idée qu'il pouvait le perdre. Son frère, par contre, vivait dans la perpétuelle terreur de perdre ses yaks et avait à veiller sur eux constamment, surtout que sur ces hautes terres du Tibet, il y a en général pas mal de loups et d'ours himalayens, et que souvent aussi les yaks périssent des rigueurs de l'hiver. C'est une partie du monde où garder les bêtes d'un troupeau est bien plus difficile qu'ailleurs. Un jour donc, le frère riche se dit « Allons, je crois que je vais demander à mon frère une faveur. » Car cet homme, voyez-vous, non seulement vivait dans la terreur de perdre ses bêtes, mais sa seule idée et son unique ambition était aussi d'en avoir un plus grand nombre. Et il s'en fut trouver son frère, lui disant « Écoute, toi tu n'as qu'un seul yak, et je sais que cela ne représente pas grand-chose. » C'est même si peu que si tu n'en avais pas du tout, cela n'aura en vérité guère d'importance. Tandis que si tu me donnes ton yak, cela m'en fera 100, et pour moi cela fera une énorme signification et une grosse importance. 100 yaks, tu comprends, voilà qui est réellement quelque chose. Si je possédais ce total, je serais vraiment quelqu'un de riche et de connu. » Ainsi lui demandait-il cette faveur. Il est gonflé quand même. Et le frère lui laissa le yak tout aussitôt, sans la moindre difficulté. Il n'eut pas d'hésitation, il le donna tout simplement. Et cette histoire est devenue proverbiale au Tibet pour illustrer que plus on en a et plus on veut, alors que moins on en a, mieux on est préparé à donner. Je vous avais raconté dans l'histoire précédente avec la mendiante qui doit refuser, donc on parle d'Anathapindika. Et puis, vous avez raconté l'histoire du... Ouais, voilà ça. Et pour la petite histoire, Anathapindika, justement, il est question du parc Jetavana. En fait, Anathapindika voulait absolument offrir au Bouddha et à sa communauté un endroit où puisse se rassembler pendant la saison des pluies. Et il avait repéré un très grand endroit, un parc magnifique, mais qui appartenait au prince du royaume. Et puis donc, bah, du coup, il va le voir et puis il lui dit bah voilà, je voudrais offrir cet endroit au Bouddha, est-ce que vous accepteriez de me le vendre? Alors le prince, il rigole, quoi, il dit non mais désolé, c'est pas dans vos moyens, quoi. Alors Antapinika, il dit bah dites toujours. Et donc le prince annonce son prix, un prix exorbitant, et Anathapindika, sans même négocier, quoi, il allonge, cash, la somme. Et non seulement il fait ça, mais en plus, il donne au parc le nom du prince en question, le parc Jetavana. Alors du coup, le prince est vachement intrigué, et c'est comme ça qu'il va créer une connexion avec le Bouddha, parce qu'il va vouloir rencontrer, mais c'est qui cet être à qui on a offert un parc dont on donne mon nom, quoi. Et du coup, il va suivre des enseignements du Bouddha, etc. Pour la petite histoire. Dans son livre « La lettre à un ami », Nagarjuna dit « Sachant que les possessions sont éphémères et dénuées d'essence, pratique avec respect la générosité envers les moines, les brahmanes, les indigents et les amis. Pour la vie prochaine, il n'est pas de meilleur ami que ce qu'on a donné. » Et Rinpoche Rinpoche ajoute « Ce que nous avons donné reste, tandis que ce que nous avons gardé ne nous appartient plus. Au moment de la mort, tout ce qui a été donné devient essentiel, tandis que tout ce qui a été gardé devient inutile. » Nous n'avons plus peur de perdre ce qui a été donné, tandis que ce que nous possédons nous cause des soucis. Ce qui a été donné nous montre le chemin de l'éveil, tandis que ce qui a été conservé nous indique le chemin de la souffrance et de la misère. Le non-attachement est au cœur de la générosité. La générosité est principalement une inspiration, un état d'esprit de non-attachement. C'est l'indicateur d'une diminution croissante de notre possessivité envers nos biens. Alors on va distinguer trois types de générosité. Traditionnellement, c'est comme ça qu'on présente. On dit la première, c'est la générosité matérielle. Voilà, donc il n'y a pas besoin de trop s'étendre là-dessus. Le deuxième type de générosité, c'est le don de la protection. Don de la protection, c'est toute aide matérielle ou psychologique qui permet à l'autre de se libérer de ses peurs, de le rassurer, de le soulager de ses angoisses, de son anxiété, etc. La protection contre les peurs. Et enfin, le troisième type de générosité, c'est la générosité du dharma, le don des instructions. Il y a beaucoup de textes qui vont beaucoup développer ce point. Dans quel contexte donner les instructions, à qui les donner, alors... Voilà, c'est surtout pour nous mettre, sans rentrer dans les détails, ils vont insister sur le fait que, on ne donne pas le dharma à quelqu'un qui nous l'a pas demandé. On doit estimer si la personne qui le demande, ça a un caractère précieux pour elle. Voilà, c'est quelqu'un qui témoignerait d'une attitude irrespectueuse, il n'est pas question de transmettre le dharma. Parfois même, les lamas vont demander, quand on prend refuge, ils disent, tout ce que vous serez dans le dharma, c'est ce que vous aurez demandé. Et ils nous disent parfois, il faut demander trois fois. Parce que certains, traditionnellement, pour évaluer que c'est précieux pour la personne, première fois, ils disent, ouais, j'ai pas le temps. Deuxième fois, ils disent, ouais, on verra plus tard. Puis voilà, ils attendent de voir si on revient à la charge, quoi. Et puis ensuite, on va parler de l'éthique. Ça va jusque-là? Vous avez des questions? Suivre un code moral. Donc la conduite éthique. Suivre un code moral, avoir un mode de vie correct, signifie s'abstenir de faire ce qui est négatif et agir de manière positive. Développer une manière de vivre qui soit bonne pour nous et qui puisse aider les autres est la base des autres vertus, le fondement de tout développement spirituel ultérieur. Sans discipline et sans conduite éthique, nous n'irons pas bien loin. Faute de s'abstenir de commettre des actes négatifs et de vivre de façon positive, notre vie ne sera ni agréable ni plaisante, mais au contraire troublée, perturbée et tendue. Des conditions nécessaires à notre développement spirituel et à la stabilisation de notre méditation nous feront défaut. La conduite éthique, ça va être important parce que il s'agit de voir clairement qu'est-ce qui est source de souffrance pour moi-même et pour les autres et s'en abstenir. Et puis ensuite, l'éthique tournée au bénéfice des autres, voilà, qu'est-ce qui est source de bonheur pour moi et pour les autres, et donc adopter. Et ça va être important parce que de se donner une ligne de conduite éthique, et de la garder. Parce que ça va nous permettre d'avoir un contrôle sur notre esprit. Parce que même si on sait pertinemment que telle attitude est source de souffrance et que telle attitude est source de bonheur, bah très souvent, quand on est emporté par nos émotions, quand on est emporté par l'avidité, par la haine, par la jalousie, voilà, tous ces trucs, bah n'empêche que on peut perdre le contrôle de ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et d'où la nécessité d'avoir une éthique profondément ancrée. Pour illustrer ça, il y avait une histoire que Rinpoche racontait cet été. En fait, il nous parlait d'une tribu en Afrique qui a une technique pour trouver de l'eau. Alors du coup, j'ai été regarder le documentaire sur YouTube. Et effectivement, donc là, il y a une tribu en Afrique, alors je sais plus où, pour quand ils ont besoin de trouver de l'eau, ils vont dans un endroit où il y a des singes et ils savent qu'ils vont être observés. Ils savent que les singes vont les observer. Et donc on voit le chasseur, en fait, il trouve une sorte de monticule de terre et puis il creuse un trou suffisamment grand pour pouvoir y passer un bras. Puis au fond du trou, il met une poignée de graines de courge. Et puis on voit notamment un singe qui se dit « Oh là, je vais pas m'approcher, c'est un humain. Ouais, j'ai pas... Il y a anguille sous roche, quoi. » Mais en même temps, il est vachement curieux. Alors, il fait l'indifférent, mais on voit bien que le trou, ça commence à l'intéresser. Et puis, on voit le chasseur, tranquillement, qui va se poster 20 mètres plus loin, puis qui attend. Puis, au bout d'un moment, le singe, il en peut plus. Il va vers le trou, et puis, il plonge sa main dedans. Et il saisit la poignée de graines de courge. Mais alors, du coup... Donc du coup ça forme un point et il peut plus le sortir. D'ailleurs, soit il lâche les graines et il sort, mais comme il veut pas lâcher, il reste agrippé à sa poignée de courge, et puis on le voit brailler dans tous les sens, il crie, il gesticule, et du coup le chasseur arrive par derrière, il le chope et puis il va l'attacher à un arbre. Et puis alors bon, on voit le singe qui fait la gueule, hein, et puis ensuite, il dispose autour du singe des sortes de blocs de sel, des petits blocs de sel. Et puis pareil, on voit le singe qui est vachement méfiant, quoi, mais n'empêche, il a vachement envie de goûter. Mais puis finalement, il tient pas 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il prend les blocs, puis il mange tout, sans prendre conscience qu'il va pas pouvoir aller boire, quoi. Et là, pareil, le chasseur, il attend tranquillement. Je crois qu'il attend le lendemain matin pour être sûr que le singe il a bien soif. Et du coup, au moment où il coupe la corde, on voit le singe qui, il se préoccupe même pas de savoir qu'il est suivi. Il fonce vers son endroit, pour aller boire. Et puis tranquillement, on voit le chasseur qui court derrière. Puis ils arrivent, dans une espèce de grotte où il y a une grande vasque d'eau. Et puis il fait ses réserves, quoi. Ouais, c'est pour montrer, pour illustrer que le fait que même si on sait qu'il faut pas faire, quand on est totalement pris, on n'a aucune maîtrise sur son esprit, on finit par faire ce qu'il faut pas faire, quoi. Et Et voilà, c'est le principe de l'éthique, avoir une maîtrise sur notre esprit. Je disais quoi là? Alors, il va y avoir deux formes d'éthique. L'éthique qui s'appuie sur ne pas nuire aux autres, c'est vraiment la base du dharma, la pratique du dharma. On pourrait dire ça. Moi, c'est ce que le Bouddha dit. Le Bouddha, il y a une phrase qui est très, très connue pour résumer le bouddhisme, c'est s'abstenir de tout acte nuisible, pratiquer les vertus à la perfection, maîtriser totalement son esprit, c'est ce qu'enseigna le Bouddha. Voilà. Et sûr que là, on est vraiment dans le bouddhisme, dans ce qu'il y a d'essentiel, quoi. S'abstenir de tout acte nuisible, pratiquer la vertu à la perfection, maîtriser totalement son esprit. Et ça commence par s'abstenir de nuire. Parce que parfois, les gens, quand on rentre dans le grand véhicule, quand on rentre dans le Vajrayana, bien sûr, on a une aspiration qui est très vaste, et puis parfois on se dit, mais oh là là, mais est-ce que je pratique vraiment le dharma? Est-ce que je suis à la hauteur? On peut toujours se dire que si on s'abstient de nuire aux autres, on est déjà dans la pratique du dharma. Déjà, voilà, même si voilà, parfois on n'en voit pas le bout, parfois on manque d'inspiration, etc. Déjà ça, se rappeler ça. Que pratiquer le dharma, c'est avant tout faire en sorte de ne pas nuire aux autres. Et c'est déjà énorme. Et on pourrait résumer donc cette éthique de la station à renoncer à l'intention de nuire aux autres. C'est important, la notion d'intention. On renonce à l'intention de nuire aux autres. Parce que parfois on peut nuire, mais on ne fait pas exprès, pas intentionnel. Et ce qui est important, c'est de renoncer à l'intention de nuire aux autres. Les actes dont il faut s'abstenir, c'est ce qu'on appelle en tibétain l'éthique de l'abstention, de l'observance et des restrictions qui correspondent aux préceptes du Vinaya et aux vœux de Pratimoksha, les règles de discipline que doivent suivre les moines et les nonnes. Ils regroupent différents niveaux comme les cinq préceptes des disciples laïcs, les vœux novices et ceux de moines pleinement ordonnés. Du point de vue du Vinaya, la discipline est focalisée sur les actions du corps et de la parole. Les règles sont bien précises quant à ce que nous pouvons faire et ne pas faire, dire ou ne pas dire, ces vœux nous empêchent de prendre une mauvaise direction. Alors là, on va parler des préceptes. Dans la voie bouddhiste, il y a des personnes qui prennent des préceptes. La force d'un précepte, c'est que, l'idée d'un précepte, c'est fort parce que quand on prend un précepte, on a plus de questions à se poser quant à est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Si on a décrété que telle chose, c'est pas bon pour nous et c'est pas bon pour les autres, ben on peut prendre un précepte et du coup ça nous évite le choix. L'embarras du choix. Voilà, ça c'est non. Les préceptes, donc dans le Vinaya, les préceptes d'ascension, c'est toujours s'abstenir de ne pas faire. Ne pas faire ci, ne pas faire ça, etc. C'est toujours ne pas faire. Et puis, donc on va distinguer les cinq préceptes laïques. Ne pas tuer, ne pas voler, c'est-à-dire ne pas prendre ce qui ne nous a pas été donné, ne pas mentir, ne pas prendre d'intoxicants, c'est-à-dire tout ce qui pourrait nuire à la perception, et enfin, pas d'inconduite sexuelle, c'est-à-dire tout comportement sexuel qui pourrait être source de souffrance pour le partenaire. Le viol, l'adultère, c'est voilà tout. Et puis, ce vœu-là est étendu au célibat pour les aspirants moines. Enfin, moi, c'est les vœux que j'ai. Donc, je suis aspirant moine depuis 10 ans maintenant. J'arrive pas à passer à l'étape au-dessus. Mais en tout cas, c'est 5 vœux. Pas voler, pas mentir, pas tuer, pas d'intoxicant. Pas d'inconduite sexuelle, dans ces vœux-là, vous pouvez réunir tous les préceptes. Parce qu'il résume même toutes les, on va dire, c'est renoncer à l'intention de nuire aux autres. Voilà, ça contient tous les préceptes. Voilà, il y en a 5 qui sont généreux, et puis ensuite, à partir de ça, il y a plein de déclinaisons, mais finalement, quand on les récepte les cinq, ben on les respecte tous. Alors, panintoxicant, oui, il y a aussi des pratiquants laïcs qui prennent ce vœu-là. Panintoxicant, alors ils le prennent pour une durée déterminée, voire pour toute la vie. C'est aussi possible de le prendre pour toute la vie. Mais on dit tout ce qui trouble la, la perception. Alors, au temps de Bouddha, il s'agissait de l'alcool et de certaines drogues. Aujourd'hui, on l'étend aussi, voilà, Thich Nhat Hanh, par exemple, il l'étend aussi aux médias. Parce qu'il y a une notion dans l'intoxicant, et une notion de dépendance. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut, on peut voir qu'il peut y avoir une dépendance par rapport à tout ce qui est voilà, Internet, les médias, le smartphone, les réseaux sociaux, etc. Et c'est à nous de voir, en fait, dans notre vie, où est-ce qu'il y a des zones où ça peut devenir un intoxicant pour nous. Parce qu'en fait, finalement, il y a... Tout dans ce monde peut devenir une source de dépendance. C'est une histoire d'habitude, d'accoutumance. Et puis, il y a pas longtemps, moi, je me suis surpris à regarder mon smartphone. J'avais pas de notification, j'avais pas de mail. Je me suis senti triste. Je me suis dit, oh là, il y a peut-être un peu de dépendance là qui vient. Il va falloir que je fasse gaffe. Ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Putain.
Des toxiques, ça peut être du coca.
Ben, on peut devenir dépendant au coca, ouais. Quand on parle de dépendance, c'est à partir du moment où on nous l'enlève, et ben, du coup, on se sent plus capable d'être heureux, quoi. Il nous manque quelque chose pour être heureux.
Aussi.
Ouais. Comment ?
Un verre de vin, une bière va m'intoxiquer aussi. Moins que la cuite.
Alors, si on prend le vœu de ne pas boire d'alcool, ça ne regarde que nous, c'est-à-dire on a le compte à rendre à personne, mais à partir bien du sûr. Moment, moi par exemple, il fait partie de mes vœux, pas prendre d'alcool, bah, j'ai pris cet engagement, personne m'a forcé, mais à partir du moment où je l'ai pris, bah, c'est pour m'y tenir. C'est-à-dire on prend un précepte dans l'optique de s'y tenir. C'est-à-dire avant de prendre un précepte, il faut se demander est-ce que je vais être capable de m'y tenir. Alors que ce soit par exemple pas prendre d'alcool pendant une semaine ou un mois ou un an, quelle que soit la durée qu'on prend, il faut être déterminé. Enfin, d'abord, il faut se poser la question, est-ce que je vais être en mesure de le tenir ? Et si je peux, voilà. Et à partir de là, bah, si on prend le vœu de pas prendre d'alcool, on prend pas d'alcool. Après, dans ces préceptes-là, en tout cas en ce qui concerne les laïcs, on n'est pas obligé de tous les prendre. C'est-à-dire, parmi les cinq, on peut en prendre un, ou deux, ou trois, ou tous. Et comme je vous disais, ça peut se prendre de manière... même pour un jour, c'est possible. Et on dit c'est bénéfique. Un mois, une année, plusieurs. La force du précepte, c'est qu'on dit que la portée karmique est plus forte que si on n'en avait pas pris. Je prends un exemple, c'est si quelqu'un ne ment, de toute façon n'est pas dans une attitude de tuer, on dit que entre celui qui a pris le vœu de ne pas tuer et celui qui ne tue pas sans avoir pris le vœu, bah les bénéfices seront plus puissants pour celui qui a pris le vœu de tuer. Oula, le vœu de ne pas tuer. Oula, mais il raconte n'importe quoi.
C'est toxique, ça. C'est toxique.
Oula, intoxicant le gingembre. Il y avait une histoire comme ça. Pour illustrer ça, il y a une histoire où c'est un quelqu'un qui va voir. En fait, c'est une personne. Donc c'est au temps du Bouddha que ça se passe. Une personne qui, le jour, est tourmentée par quatre chiens qui n'arrêtent pas de le tourmenter, de lui faire des blessures, de le mordre toute la journée. Et la nuit, ces quatre chiens, en fait, se transforment en quatre femmes absolument délicieuses, très belles, etc., qui ont énormément de dévotion pour lui et qui, en fait, le vénèrent toute la nuit. Et un jour, un moine de la communauté du Bouddha vient voir cet homme et lui dit « Mais quel est ce karma, quoi ?» qui fait que ça t'arrive. Et il raconte que, et l'homme raconte que, en fait, dans une vie antérieure, il était boucher. Et en même temps, il était, quand même, il avait envie de spiritualité, il avait envie de conseils pour s'éveiller. Et il avait rencontré un sage qui lui avait dit de ne pas tuer. Et l'homme lui avait répondu, je ne peux pas parce que boucher, c'est mon métier. Et si je ne fais pas mon métier, je ne peux pas nourrir ma famille, etc. Et donc, il lui avait suggéré, il lui avait demandé, mais est-ce que tu tues aussi des animaux la nuit? Il dit, la nuit, je ne tue pas d'animaux puisque je dors. Et il dit, alors est-ce que tu envisagerais de prendre le vœu de ne pas tuer au moins la nuit? Donc, personne dit, ça je peux l'envisager, et prends ce vœu-là. Et donc, les conséquences de ça, c'est que, du coup, la nuit, elle a un répit. Pour montrer que le fait de prendre un vœu peut avoir une portée karmique très puissante, même si sans le vœu, on s'abstiendrait de commettre ce genre d'acte négatif. Alors, je pense que je continue encore un peu. On a bientôt fini. Alors, il y a 10 actes négatifs. Alors, sans parler des préceptes, on parle de 10 actes négatifs. C'est une sorte de trame pour accompagner notre réflexion sur le fait de s'abstenir de nuire à autrui. On parle de 10 actes dont il faut s'abstenir en général, pour tout pratiquant. C'est tuer, voler et la conduite sexuelle. Ça, c'est les 3 actes du corps, 3 actes négatifs du corps. On parle de 4 actes négatifs de la parole. Mentir, les propos malveillants, les propos blessants, la médisance, ça c'est le deuxième. Le troisième, c'est la calomnie. La calomnie, c'est un petit peu pareil que les propos malveillants, sauf que l'idée c'est de la calomnie, c'est de colporter des rumeurs fausses sur quelqu'un. C'est ça la calomnie. Et enfin, le bavardage futile, c'est-à-dire le fait de parler à tort et à travers sans prendre en considération ce que ça peut faire naître dans l'esprit de l'autre en termes de facteurs perturbateurs. Voilà, c'est pareil, j'ai l'impression que je vous apprends rien du tout, mais bon. C'est toujours dans l'idée de comprendre que la parole, c'est très puissant. Et c'est très précieux, la parole. Ça peut faire beaucoup de bien, ça peut faire beaucoup de mal. Donc, apprendre à parler à bon escient. Pour prendre conscience de ce qu'on dit, et surtout de l'intention qui se cache derrière. Il y a toujours une intention derrière. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'attends? Ça renvoie à l'intention. Est-ce que ça va être bénéfique? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est opportun? Etc. Et enfin, les 3 actes négatifs de l'esprit, les pensées malveillantes, les pensées de convoitise, et les vues extrêmes. On appelle les vues erronées. Les vues extrêmes, c'est de ce qu'on appelle le nihilisme et l'éternalisme. L'éternalisme, alors le nihilisme, c'est avoir une mauvaise compréhension de la vacuité qui consisterait à penser que la vacuité, ça veut dire que rien n'existe. Ce qu'on appelle le nihilisme. Une mauvaise interprétation de la vacuité qui nous amènerait à penser qu'au fond rien n'existe. Le karma, tout ça, ça n'a pas d'importance, pas d'existence, et c'est très dangereux. Et puis l'inverse, c'est de penser que tout a une existence par elle-même, une existence réelle. Et c'est pour ça qu'on va parler de la voie du dharma comme étant la voie du milieu. C'est pas un compromis entre ça et ça, on fait un compromis, c'est la voie eau tiède. La voie du milieu, c'est justement une vue qui est libre de conclure « alors rien n'existe » ou libre de conclure « alors tout existe vraiment ». Et ça nous introduit à la véritable nature des choses. On voit les choses telles qu'elles sont, sans basculer dans des conclusions trop hâtives, qui consistent à dire « alors ça n'existe pas » ou « alors ça existe vraiment ». La vue bouddhiste, on va dire la vue du dharma, c'est quand justement on est libre de ces deux extrêmes-là. On voit les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire, oui, ça apparaît. Oui, ça existe en dépendance de causes et de conditions, mais ça n'a pas d'existence ultime, c'est-à-dire par elle-même. C'est apparaissant, mais sans existence propre. C'est ni réel, ni non réel, ni existant, ni non existant. C'est ça, voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça ce qu'on appelle l'éveil, justement. L'éveil, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Donc du coup, on est libre de ces deux vues. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Et donc, dans la voie du bodhisattva, donc, on va vraiment porter ensuite l'accent sur une éthique au bénéfice des autres. Autant l'éthique d'abstention, effectivement, ça va être très précis. Ne pas faire ci, ça, et ça concerne quoi ? La parole et les actes. Mais quand il s'agit de faire le bien des autres, l'accent va être mis sur l'esprit, c'est-à-dire l'intention avec lequel je fais quelque chose. Et on peut... je vais juste vous lire le passage, ce sera plus clair. Les actions positives qui développent la bodhicitta, c'est-à-dire notre compassion et notre sagesse, nous permettront de venir ensuite en aide aux autres. C'est ce qu'on appelle en tibétain la discipline qui vise à nous permettre d'acquérir ce qui est bon, positif. Cette accumulation d'actions positives comprend l'étude, la méditation, le fait de se réjouir du bonheur des autres, de les encourager à accomplir des actions positives, de faire des offrandes, de pratiquer les six paramitas, etc. Bref, tout ce qui développera notre pratique comme bodhisattva. Les préceptes à ce niveau tiennent avant tout compte de l'esprit dans lequel une action est accomplie, de l'intention, de la motivation qui sous-tend l'acte. Les choses à faire ou ne pas faire ne sont donc pas énumérées avec précision. Ainsi, une action apparemment mauvaise, vue de l'extérieur, peut en fait être accomplie avec une motivation altruiste et sera définie comme bonne à ce niveau-ci, contrairement à ce qui serait le cas au niveau du Vinaya. À l'inverse, une action apparemment bonne peut être hypocrite et en fait motivée par de mauvaises intentions. Et quand on fait partie du courant des bodhisattvas, à ce niveau-là, c'est la compassion qui va vraiment être le moteur de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Et on peut envisager que parfois, par compassion, on puisse ne pas appliquer nos préceptes du Vinaya. Même si on a, par exemple, même si on a pris le vœu de ne pas mentir, par compassion, on doit être prêt à assumer de mentir quand même si il nous paraît évident que ça sera mieux de mentir pour protéger une personne, pour ne pas la blesser. Parce qu'on voit que si on dit la vérité, ça, je prends un exemple, c'est si par exemple, on peut envisager que des gens qui aient caché des juifs pour les protéger des nazis, au moment où le nazi vient et demande est-ce que vous avez un juif chez vous, envisager de mentir pour éviter que le. Voilà. Ça paraît assez évident, mais c'est bien de le souligner. Que même si on a pris des préceptes au niveau du Vinaya, le vœu de Bodhisattva est supérieur. Et là, c'est l'esprit avec lequel on le fait. Extérieurement, ça peut paraître comme une action négative, mais si l'intention est bonne, le fruit sera positif. Et ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire, on peut afficher une apparence de pratiquant modèle de générosité, etc. Mais si l'intention, elle est pas nette, le résultat, il sera en conséquence, quoi. Et puis pour finir, la paramita d'éthique, c'est pareil que pour toutes les paramitas, c'est pratiquer l'éthique en étant libre de cette notion de celui qui pratique l'éthique, de l'objet de l'éthique et du destinataire de l'éthique. On n'est jamais à l'abri de devenir un intégriste, même si on a prétendument le... On prétend savoir ce qui est bon ou mauvais, ça peut vite devenir un dogme. Et on reste figé sur, moi, je pratique l'éthique, donc moi, je fais partie du camp des bons. Donc, et puis le reste, bah, du coup, c'est les méchants, c'est les pas bons, c'est les vilains, etc. Se libérer de ça. C'est on comprend sur le moment, au cas particulier, qu'est-ce qui a adopté, qu'est-ce qui a rejeté. Et puis ça peut bouger aussi. Et sans se prétendre quelqu'un de bien parce qu'on pratique la compassion aussi. Vous voyez, la compassion, parfois elle s'élève et parfois on peut on peut s'identifier à quelqu'un de bien parce qu'on pratique la compassion. Non, la compassion, c'est simplement le fait de ne pas vouloir que l'autre souffre. En fait, on est touché par la souffrance de l'autre. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de bien. C'est ce que nous sommes. C'est la nature de notre esprit, justement, de ressentir la compassion. De même pour la générosité. Pratiquer la générosité ne fait pas de nous ingénéreux. Si on commence à s'identifier à... parce qu'il y a un élan de générosité qu'on y répond, eh ben on s'identifie à ingénéreux, je suis ingénieux. On va être, au bout d'un moment, on va être bloqué. Voilà, c'est pareil pour l'éthique, c'est pareil pour les autres paramitas, se libérer de toutes les saisies qu'on a par rapport à nous qui pratiquons la générosité, à l'objet de pratique, etc. Voir ça comme un rêve, c'est comme ça que disent les textes. Voir le généreux, la générosité comme un rêve, ce qui est donné comme un rêve, le destinataire comme un rêve. L'éthique d'abstention comme un rêve, l'éthique au bénéfice des autres comme un rêve. Voilà, ne pas trop avoir de saisie par rapport à ça. C'est ce qu'il faut faire là maintenant, sur le moment. Voilà. Transcender la générosité. Dans l'état naturel absolu, le mental voit les choses clairement et d'une manière prodigieuse. Par exemple, si celui ou celle qui a transcendé son esprit ordinaire est impliqué dans un acte de générosité, il ou elle saura que le jeu n'existe pas plus que l'acte de donner, ni celui à qui le don est fait, car ultimement, il n'y a ni séparation ou distinction. L'esprit qui réalise cela est appelé transcendant. Mais on ne peut dire... D'accord, je n'existe pas, tu n'existes pas, et donner n'existe pas non plus. Aussi, pourquoi prendre la peine de donner? Une telle attitude n'est qu'une excuse pour éviter la pratique de la générosité. En fait, si on a véritablement réalisé la nature de l'esprit transcendant, on devient de plus en plus généreux. Ordinairement, la manière dont on donne conserve la notion du moi, du don et de toi. On attend aussi des remerciements en retour pour notre générosité. Et si on ne nous remercie pas, nous en sommes blessés. Mais en continuant de donner, il n'y a plus que le don de lui-même. Cela ne veut pas dire qu'on donne inconsciemment. Cela signifie que peu à peu, on se dissocie de l'idée même de donner. On devrait également ne pas trop se féliciter soi-même, ou penser que notre générosité est exceptionnelle. La capacité à donner est en elle-même un grand don, car l'acte de générosité nous enrichit. Le réalisant, l'idée même du bien faire disparaît, et quoi que nous fassions de bien est transcendé. L'action d'un bodhisattva est celle dans laquelle il n'y a ni je, ni toi, ni action. Considérer qu'il y a un sujet, un objet et une action est dualiste. Le véritable don est non duel et transcendant. Ça, c'est un extrait de La voix au-delà des nuages de Sogyal Rinpoche. Ce qu'il dit pour la générosité, c'est valable pour toutes les paramitas, en fait. Voilà, des questions? On s'arrête là?
C'est bon, j'ai quand même une question. Mais c'est pas tout à fait sur les paramitas, c'est sur ce, le précieux ornement de la libération de Gandhopa. Donc je l'ai lu cet été après avoir lu le Longjong, les 7 points
de l'esprit. Ouais.
Et en fait, donc. Que j'en ai compris des 7 points de l'enfermement de l'esprit, mais on avait aussi travaillé ici à un moment donné, tout, c'est qu'on pouvait atteindre l'éveil comme ça dans la lignée où on était ici. Et bon, grosso modo, hein, je vais peut-être pas être très claire. Par contre, quand je lis Gandhopa qui est de la même lignée, lui, c'est très compliqué, il faut prendre des vœux, il faut... Et on a la... j'ai l'impression que je ne peux pas arriver à l'éveil parce que je ne peux pas rentrer là, je ne peux pas rentrer là. Il y a des choses, c'est très codifié. Il y a des choses, on peut... J'ai presque l'impression qu'il n'y a que les nonnes, les moines qui peuvent y arriver. Je ne sais pas, c'est très très compliqué, alors que la voie de l'entraînement de l'esprit est beaucoup plus... et ouverte à tous. Disons que dans un, j'ai l'impression que ça, c'est, j'ai l'impression que les deux disent la même chose, que l'un dans l'autre, on retrouve tous les préceptes de Gampopa dans les sept entraînements de l'esprit, mais un me ferme des portes et l'autre me les laisse ouvertes. Je sais pas comment, disons, je me suis sentie exclue par Gampopa dans beaucoup de choses, alors que dans les sept points de l'esprit, je me sentais pouvoir suivre la voie et arriver au bout.
Ouais, mais après, en fait, on est dans le Mahayana, donc dans le grand véhicule, et donc l'aspiration du Mahayana, c'est puissais-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est-à-dire que le Bodhisattva, quelque part, la notion d'éveil, elle est plus envisagée comme un point à atteindre. La notion d'éveil, elle est plus envisagée comme une activité. C'est-à-dire, à la limite... l'éveil, que ça se passe dans cette vie, ou dans la vie suivante, ou dans 10 vies, ou dans 100 vies, ou dans 1 million de vies, bah à la limite, on s'en fiche. C'est plus le propos, parce que le propos, c'est comment faire pour que tous les êtres se libèrent de la souffrance. Et là, tous les moyens sont bons, et on n'est pas pressé. Parce que l'aspiration, c'est, je veux libérer tous les êtres du samsara. Et je veux les emmener tous vers l'éveil parfait. Et c'est tous... sans exception, et c'est tous, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps que ça prendra, et de ce point de vue-là, en fait, on n'est pas pressé. Alors, à la fois, il y a une urgence, c'est-à-dire, si il y a une aspiration, donc du coup, il faut se mettre en pratique, l'aspiration, ça ne va pas suffire, donc il y a une urgence au truc, mais en termes de temps, on n'est plus en train de, comment dire, d'envisager que... C'est-à-dire, tant qu'on a cette aspiration, de toute façon... on est condamné à réaliser l'éveil, même si on ne le veut pas. Qu'on pratique le jong, qu'on pratique... ça. Par contre, on n'est pas pressé. C'est-à-dire, c'est... parce que là, l'aspiration, c'est de devenir un Bouddha. Ce n'est pas tant se libérer de la souffrance et de devenir un arhat. Parce qu'à la limite, on pourrait dire ça va plus vite. Mais quand on a un bodhisattva, l'idée, c'est d'avoir tous les moyens... possible, imaginable, c'est-à-dire les upayas, les moyens habiles pour aider les êtres. Et là, du coup, il va falloir prendre le temps de développer les 6 paramitas. Parce que c'est vraiment les 6 paramitas qui vont nous donner tous ces moyens-là. Et donc, du coup, de la générosité, arriver à la paramita de la générosité, et puis ensuite éthique, et puis ensuite, etc., jusqu'à la sagesse. Ça va peut-être prendre... peut-être que ça va aller vite pour nous, mais si ça va vite pour nous, c'est pas parce qu'en fait, ça fait des kalpas qu'on se coltine ce boulot. Et ça paraît long, c'est qu'en fait, oui, peut-être ça va prendre encore. Mais finalement, c'est pas ça le problème. Parce que, au bout d'un moment, le bodhisattva, il se réjouit de son chemin. C'est-à-dire, le chemin est le fruit. C'est tant que j'ai les capacités d'aider les êtres, quelque part, c'est ça qui me rend heureux. On va en parler dans le paramita de la persévérance. Quand on arrive là, en fait, peu importe si on a l'éveil, puisque, en fait, on se fiche des difficultés. Chaque difficulté dans le lojong, c'est ça. Une difficulté, génial. Tremplin pour l'éveil. Si c'est bien, c'est la pratique. Si c'est pas bien, c'est la pratique. Donc tout est matière à jouer parce qu'on est sans arrêt en train d'accumuler du mérite, c'est-à-dire encore plus de moyens, encore plus d'énergie positive qui nous permettent d'avoir une espèce de flot et on emporte tout le monde avec nous. C'est ça le grand véhicule, c'est que dans ce flot-là, ça va être source de bénéfices pour. Ça va avoir un rayonnement. Et puis, le moi dans l'histoire, à un moment donné, il va disparaître. Mais à la limite, on ne sait pas quand, mais il se dissout dans le nous. Il se dissout progressivement, et puis c'est l'éveil, mais en fait, on s'en rappelle. Enfin, quelque part, ça ne s'appelle plus. Ça s'appelle plus comme ça. Il n'y a plus quelqu'un pour dire « je me suis éveillé ».
Disons, moi, ce qui me gênait, c'était chez Gampopa, j'avais l'impression justement qu'il y a des fermetures. qu'il y avait presque une exclusion de certaines personnes, qu'il y avait...
Oui, parce que c'est vrai que dans le Gampopa, il a parlé...
Et je ne sentais plus l'esprit bouddhiste là-dedans. En plus, c'est un non-maître, je veux dire, c'est un grand. Donc, pour moi, il a réalisé ce qu'il dit. Donc, s'il le réalise et qu'il le dit comme ça, ça me gêne.
Tu n'aurais pas un passage, par exemple, en particulier?
J'en avais parlé à Christelle quand c'était frais, ça m'a vraiment marqué. J'ai besoin d'en parler à quelqu'un.
Parce que c'est vrai qu'il va parler de. Il a parlé de pratiquant inférieur, pratiquant intermédiaire, pratiquant supérieur.
Oui,
il va parler de potentiel interrompu. Quand il parle des 8 libertés, des déviations.
Et après, en priant pour eux, voilà.
C'est vrai que par rapport à la précieuse existence humaine, il est très clair, quoi.
Voilà, et on peut continuer après en les aidant à passer d'Arhat à d'auditeur pour soi, différents.
Puis il est pas le seul, c'est-à-dire.
Mais en même temps, il dit, pour ça, il faut avoir pris les vœux ça. Je sais pas, ça me semble très des boîtes, et puis si on ne rentre pas dans la boîte, alors on peut pas en sortir. Je l'ai vécu. Oui, je me suis sentie mais exclue à certains moments. Alors que dans d'autres livres sur Bouddha ou sur autre, il y a plusieurs chemins et puis on prend chacun son chemin et on peut arriver, quel que soit le chemin. Lui, non, il y a un chemin, il faut suivre ce chemin et si on s'éloigne de ce chemin, ça ne va pas.
Ouais.
Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et ça faisait la deuxième fois que je le lisais. J'avais quand même envie de le relire parce qu'il était méthodique. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être besoin de revenir aux fondamentaux et d'avoir un peu de méthode. Donc, j'y suis revenue. Mais j'ai... Voilà.
Ah, il y a une méthode. Il y a une méthode. Alors, la méthode Bodhisattva, elle peut paraître plus, englobante, mais n'empêche que prendre les vœux de Bodhisattva... C'est une méthode qui est simple, mais qui n'est pas non plus facile à mettre en pratique. Bodhisattva, c'est quelque part tenir le vœu de Bodhisattva, c'est plus que renoncer à l'intention de nuire aux autres. C'est vraiment que tous nos actes, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, soit pour le bénéfice des autres. Et que si c'est pas le cas, eh ben on brise notre vœu de Bodhisattva. C'est une façon plus simple de résumer tout ce que dit Gampopa en termes d'attention. On a pression extérieure, pas faire, etc. Ouais. Nous, on va résumer par vœu de Bodhisattva. C'est vrai que dans le jungle, c'est plus simple. Vœu de Bodhisattva, t'es sur la bonne voie s'il n'y a pas de vœu. Mais sous-entendu, dès qu'on s'écarte du vœu de Bodhisattva, on n'est plus dans la voie. Et donc, du coup, on risque de ne pas tirer parti de notre potentiel. Et donc, du coup, de se retrouver à un autre moment privé de potentiel de libération. Et Gampopa va le souligner, il va dire bah ouais, là on a la précieuse existence humaine, c'est pas dit que dans l'existence suivante, on l'est. Et donc, potentiel interrompu, il suffit pas grand chose pour que même si on a les instructions sous le nez, on puisse pas les pratiquer, on les a, mais le contexte fait qu'on peut pas les pratiquer. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, c'est sûr, il est hyper rigoureux et c'est pour ça que c'est une référence, c'est-à-dire il n'y a aucune concession. On peut pas se raconter d'histoire quand on lit Gampopa. Impossible de se raconter des histoires. Et c'est vrai que c'est très exigeant et que ça peut paraître décourageant, mais c'est pas fait pour nous décourager.
Mais disons que j'ai l'impression que lui, il dit en dehors de la voie, il n'y a pas de cette voie à la sienne, il n'y a pas de salut, alors que le Lojong disait on peut y arriver aussi.
Mais il y a un point à faire, c'est-à-dire. À aucun moment, Lojong et le précieux ornement de libération,
non.
Absolument pas, ils sont absolument pas en contradiction.
Non, au contraire, disons que j'avais l'impression que c'était la même chose, mais en même temps, l'un me dit, si tu fais pas ça, ça va pas aller, alors que l'autre laisse quand même une liberté, et je me sens pas exclue, et je me sens que j'y vais avec ce que je suis, et puis j'avance avec ce que je suis, et puis j'y arriverai, mais il faut que... Oui, il me faudra peut-être beaucoup de calme. dans l'autre, de toute façon, ouais. Donc ça m'a. ça m'a un peu...
Ouais, ça ébranle, quoi, son, oui. son haillon. Et ça aussi, ça fait partie du chemin. C'est-à-dire, plus... et beaucoup de lamas le disent. C'est que parfois, dans le chemin, t'avances, jusqu'à un moment donné où on se retrouve au pied du mur, on a l'impression qu'on n'a rien fait, qu'on est retour à la case départ. Mais en fait, faut pas se décourager, parce que c'est tout le temps comme ça. C'est, on a dès qu'on a l'impression d'avoir compris un truc, retour là. Comment ?
Après mon repas, je suis passée à Tich Nathan, je me suis dit...
Ça fait du bien.
C'est plus léger.
On fait la dédicace ? Par cette vertu, puisse-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Une petite pensée pour François.